Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Si l'on en croit le Midi Libre, La Voix du Nord, BFM ou Le Progrès, il y aurait en France en 2016 des parents qui ont eu l'idée d'appeler leur fille Clitorine. Du moins, cette information figure-t-elle dans un certain nombre de ces articles annuels toujours réjouissants, la liste des pires prénoms attribués à des enfants qui n'en demandent pas tant. À Clitorine s'ajoutent cette année-là Merdive et Al Capone, ainsi que d'autres prénoms que je passe sous silence. Étonné et consciencieux, le quotidien Libération et son service Check News a cependant poussé l'enquête un peu plus loin et est parti à la recherche de ses parents à l'imagination débordante. Il n'a pas fallu aller bien loin et il a suffi d'ouvrir le livre dont l'information est extraite, l'anti-guide des prénoms, pour comprendre de quoi il en retourne. Clitorine figure bien sur la couverture du livre, mais quelques pages plus loin, on comprend que ce prénom, c'est le Yeti, le Graal, l'Arlésienne, bref, une légende urbaine savamment entretenue et jamais démontée. C'est le prénom dont les auteurs du livre, chasseurs de prénoms aguerris, ont toujours entendu parler sans jamais avoir réussi à prouver qu'il ait jamais été donné. À chaque fois, les preuves se dérobent, à la dernière minute, les témoins directs disparaissent, à chaque fois, quelqu'un l'a entendu de quelqu'un qui ne s'est jamais identifié, le principe de la rumeur. Les seules personnes affublées de ce prénom ridicule ayant été débusquées sont des personnages de fiction dans une émission de la RTBF et une bande dessinée. La seule conclusion vraiment choquante de l'enquête réalisée par le service des intox de Libé, c'est que les journalistes n'ouvrent pas forcément les livres qu'ils reçoivent et dont ils parlent. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, quatre autres histoires de prénoms, autrement plus sérieuses et profondes, ce que veut dire d'en changer, notamment ce que ça raconte sur l'identité et le monde qui nous entoure. Rien que ça, par Émilie Chaudet, qui commence par nous dire pourquoi ce sujet l'a touché en particulier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Coucou, ça va?
Très bien, c'est Maria qui vient de m'envoyer son deuxième petit-fils aimé.
Mes parents voulaient un prénom occidental. Je me suis arrêtée longtemps sur ce titre du journal Le Monde il y a quelques semaines. Je sais pourquoi il m'a troublée ce titre. Ça part d'un souvenir d'enfance. Mon grand frère s'appelait Mehdi. Et puis un jour il a changé de prénom. Il avait 10 ans quand c'est arrivé. Et moi 5. Je me souviens pas de cette époque. Et en lisant ce titre du journal Le Monde, je me suis aperçue que je lui avais jamais posé de questions sur ce moment. À commencer par pourquoi, qu'est-ce que ça lui a fait de changer de prénom, est-ce que ce choix lui a appartenu, est-ce qu'il a pu le regretter. Donc je lui ai écrit pour lui demander tout ça, et 2 semaines après, toujours pas de réponse. Comme il habite maintenant à l'autre bout du monde, je peux difficilement insister au téléphone ou aller frapper à sa porte. Alors en attendant, j'ai décidé d'aller voir mes parents.
On lui a donné Mehdi en premier prénom et Didier en deuxième. Et grandissant, dans la cour de la récréation, d'autres enfants imitaient les accents arabes, c'est-à-dire ils se moquaient de lui. Tu es Mehdi à 14 heures, ceci, cela.
Il posait plein de questions, oui.
Oui, il posait souvent, voilà. D'où tu viens, pourquoi tu as le nom de famille Chaudet et tu t'appelles Mehdi. Et alors Didier, il expliquait que maman, elle est d'origine tunisienne et papa est français.
Bon, voilà. Et ça l'embêtait un peu, comme il était un peu timide. Ça l'embêtait beaucoup, toujours des questions, toujours...
À Saint-Vincent-de-Paul, c'est une école qui a pas...
Ouais. Une école catholique, donc ça sortait de l'ordinaire.
Il n'y avait pas du tout d'autre origine dans l'école, je me rappellerai toujours, j'étais la seule personne d'origine étrangère et ça me faisait mal pour mon fils parce que je faisais tout pour qu'il soit intégré. Et c'est là, Didier, je lui dis, si tu voulais prendre ton deuxième prénom, on va faire en sorte que tu l'as. Et même la maîtresse, elle m'a dit, je connais très bien le problème parce que ma fille, elle est mariée avec quelqu'un d'origine algérienne. Elle a donné à tous ses enfants un prénom français. parce que son mari, il a subi ce problème-là de racisme dans les écoles, dans tout ça. Et elle m'a dit, je comprends Didier et je vous comprends, vous, de faire ces démarches-là.
Et son institutrice lui a fait une lettre pour appuyer sa demande parce qu'il fallait que ça passe par le tribunal d'instance. Le problème a été compris tout de suite par le tribunal, et ils ont tout de suite accepté, ça a été fait.
Et il a son deuxième prénom, voilà, c'est parti dès la sixième. Et la sixième, il est rentré, c'est à une autre école, à une autre institution, et de nouveaux camarades, et ça a été très facilement parti.
Voilà.
Vous avez eu du mal à l'appeler Didier les premiers jours ?
Pas du tout.
Pas du tout. En fin de compte, c'était très naturel pour tout le monde.
Mais par contre, quand il appelait Mehdi, il ne répondait pas. C'était clair pour lui. Peut-être maintenant, j'ai plus d'audace. J'aurais été directement faire les remontrances même aux parents, que je n'ai pas fait. Mais cette époque-là, c'est sûr que j'étais plus timide, plus jeune, voilà.
Oui, je pense que la décision était la bonne, en fin de compte, de changer de prénom. C'était la bonne pour lui et pour son avenir.
Je me souviens que peu de temps après ce changement de prénom, j'écris un poème à mon frère pour son anniversaire, dans lequel je lui disais que Didier lui allait comme un gant. Je sais plus si je voulais vraiment dire ça à l'époque ou si je cherchais juste à faire des rimes, mais en grandissant, c'est moi qui me suis mise à regretter un peu Mehdi, puis à préférer l'appeler frérot quand je lui écris, ou mon frère quand je parle de lui aux autres. Il a finalement répondu à mon message. Pas de regret ni de nostalgie dans ses lignes. Ce changement de prénom a été pour lui un cadeau. Il me dit aussi que son identité ne se réduit pas à un prénom. Mais même si je peux le comprendre sur certains points, je ne suis pas totalement convaincue. En même temps, je n'ai pas eu à ressentir ce que lui a vécu dans cette cour de récréation ou ailleurs. J'ai toujours porté un prénom français, choisi par mon frère d'ailleurs, et puis Nora, en deuxième. Inutile de préciser qu'il n'a jamais été question, ni à la maison, ni à l'école, de les inverser. Et c'est parce que cette réponse de mon frère ne me satisfait qu'à moitié que j'ai voulu rencontrer Bouchra pour qu'elle me raconte son histoire.
Je m'appelle Bouchra, j'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'habite en région bordelaise. C'est une histoire qui s'est déroulée en 2016, c'était dans le cadre d'une nouvelle réorientation professionnelle en tant que téléconseillère auprès d'une entreprise qui fait du télémarketing et de la vente de produits pseudo-bio. Alors il s'agit d'une période de formation qui durait une semaine. Nous étions 5 personnes, donc il y avait une personne d'origine sénégalaise, une autre personne issue de l'Algérie, qui avait un prénom algérien. Ensuite, il y avait une personne qui était roumaine, et une autre, je crois qu'elle était bulgare. Alors nous apprenions le béaba de la télévente, par exemple les questions ouvertes, les questions fermées, et ensuite des speeches qu'on devait apprendre par cœur pour pouvoir vendre le produit aux futurs clients. Et donc le deuxième jour de la formation, la formatrice donc en question nous a conseillé que pour les personnes qui avaient des prénoms à consonance étrangère, elles devaient changer leur prénom pour mieux passer auprès de la clientèle. Parce que de toute façon, vous allez être remballé par les clients. Et ce ne serait pas très bon pour vous et pour votre chiffre d'affaires. Donc au niveau de la période d'essai, essayez de faire le maximum pour pouvoir vous intégrer aussi bien auprès de la clientèle qu'au sein de l'équipe. Et j'ai regardé mes collègues et personne n'a bronché. Et le vendredi, moi j'avais été voir donc pendant la pause l'ensemble donc des personnes qui étaient avec moi, qui étaient donc en formation et en pré-embauche. Je leur ai dit, bon, ça vous interpelle pas ce genre de choses ? Si, mais bon, il faut peut-être le faire, c'est pas grave, c'est juste pour le job. Donc la formation se poursuit, nous commençons à émettre des appels téléphoniques vers la clientèle. Donc je décide de m'appeler Claire. Claire, ça voulait dire beaucoup de choses pour moi. J'étais Claire dans mon esprit, mais en même temps, inconsciemment, c'était un message que je lançais aux employeurs. Parce que de toute façon, je savais que toutes les conversations téléphoniques étaient enregistrées. Et donc, bon, bah, on avait notre speech qui était en face de nous. On appelait donc les clients et on leur vendait notre produit. Donc, bonjour, Claire de... Ma voix vibrait et je perdais quasiment tous mes moyens parce que quelque chose en moi sonnait faux. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de partir et de claquer la porte. Mais je ne voulais pas faire d'esclandre, je ne voulais pas me mettre en avant et dire « Non, ça n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. » Ça a duré donc le temps de 3 appels et donc la fin de la journée s'est terminée. C'était le samedi matin, dernière journée de formation. Et le lundi, nous attaquions donc carrément dans le centre d'appel avec une autre formatrice et une autre superviseure. Donc, bien le week-end s'est passé. J'ai une amie très proche à laquelle j'avais discuté et elle me dit « Mais comment tu as fait pour les tests ?» Je me suis dit « Mais je me suis appelée Claire. » Elle m'a regardée d'un air ahuri. Elle me dit « Mais non, bougera pas toi, fais pas ça, pas ce genre de choses. » Là, j'ai compris qu'il fallait pas que je rentre dans ce jeu-là. Là, elle m'a remis un petit peu les idées en place et... Le soir même, j'en ai discuté avec mon époux et je lui ai dit « Bon, bah, écoute, lundi, j'annonce que je refuse de changer mon prénom. » Le lundi matin, nous retrouvons notre groupe donc auprès de la superviseure qui a l'air d'une personne beaucoup moins avenante que l'autre et beaucoup plus intransigeante. Et au moment de la pause, je vais la voir en aparté et je lui dis textuellement « Écoutez, je ne souhaite pas changer mon prénom lors de la mission des appels téléphoniques et je ne le ferai pas, sachez que je ne le ferai pas. » Elle a tourné le dos et ensuite elle m'a dit « Bah, tu fais ce que tu veux. Ce sera tant pis pour toi, tu fais ce que tu veux, mais viens pas te plaindre si tu ne vends rien. » Évidemment, j'étais fébrile, mais au moins je me sentais... libérée d'un poids parce que pour moi c'était trop violent. Ce lundi, donc lorsque j'ai émis les appels téléphoniques, j'en ai émis 5. Eh bien, bonjour, je suis Bouchra de la société Intel. Les personnes que j'avais au téléphone n'ont pas semblé du tout étonnées par la consonance de mon prénom. Après une heure donc d'appels téléphoniques, je n'ai pas été performante parce que j'étais émue, j'étais pas bien. Donc je n'ai pas été performante et donc là, la superviseure n'a pas arrêté de couper mes conversations, de me couper la parole et de me dire « Non, il ne faut pas faire ci, non, il ne faut pas faire ça. » Et donc ça n'a fait qu'empirer mon état de stress dans lequel j'étais parce que j'avais osé dire non à une hiérarchie. À la mi-journée, la superviseure est venue me voir et elle me dit « Bon, bah, écoute, Bouchra, ça ne peut pas continuer comme ça, tu stresses trop, tu es trop fébrile, ça ne va pas le faire. » J'ai tout posé, je dis « Bon, bah, on arrête là. » Et enfin, ils ont mis fin à ma période d'essai à ce moment-là. Donc, j'ai pris mes affaires et je suis sortie donc du lieu. Je me suis même perdue, j'étais tellement émue. Et ensuite, bah, je suis rentrée chez moi et là, je me suis effondrée en pleurs. Mon mari m'a soutenue et on en a parlé à notre fille aînée. Et notre fille aînée m'a dit « Non, maman, tu ne peux pas laisser ça comme ça. » Elle me dit « Je vais lancer une pétition. » Je dis « Bon, d'accord, banco. » Elle me dit « Mais il y aura peut-être des conséquences. » Je lui dis « Mais c'est pas grave, ça ne me pose aucun souci là-dessus. » L'essentiel, c'est qu'il faut vraiment, vraiment faire quelque chose pour que ce genre de pratique professionnelle se cesse. Donc notre fille aînée a mis en place une pétition sur la plateforme change.org où cette pétition a obtenu environ 45 000 signatures et moi de mon côté, eh bien, j'ai saisi le défenseur des droits pour que cette histoire-là ne reste pas sans réponse et sans justice. Après enquête, le défenseur des droits a fait un rappel à la loi au niveau de cette entreprise et c'est ce que je souhaitais. Je ne souhaitais rien d'autre si ce n'est que cette entreprise-là cesse ses pratiques qui sont illégales. suite à cette histoire-là, j'ai énormément perdu confiance en moi. Bon, j'avance, évidemment, et 3 mois après cette histoire, j'ai retrouvé un travail dans lequel je me suis épanouie.
Je m'appelle Anne-Sophie Beauvais, j'ai 39 ans et ma mère s'appelle Wanda, un prénom très polonais, Wanda Szuperski, et elle a aujourd'hui 70 ans. Alors, je ne sais pas, y a comme un paradoxe finalement, parce que mes grands-parents ont vraiment cherché à être plus français que les Français. Il y a eu un souci d'intégration après-guerre de leur part. D'abord, ils ont repris des études, ils ont tous les deux appris la langue en même temps qu'ils suivaient leurs cours. Ma grand-mère est devenue infirmière, mon grand-père est devenu médecin, ils ont suivi des études. Et je sais que mon grand-père, pour apprendre le français, a lu 10 fois, 20 fois peut-être le même livre, avec cette idée que plus il allait lire ce livre, plus il allait le comprendre. Et donc, je sais que mon grand-père a fait très vite des démarches pour être naturalisé. Grâce à ce qu'il avait fait dans la résistance, je crois qu'il a obtenu cette naturalisation assez vite. Mais c'est vrai qu'ils ont eu ce souci de devenir très français. Alors, pourquoi ils ont voulu appeler ma mère avec un prénom polonais? Je pense que ma mère naît en 1948. Et donc, après, arrive une période de guerre froide qui va complètement séparer ma famille, qui est donc en France, du reste de la famille en Pologne. Et donc, plus de contact du tout entre l'Ouest et l'Est. Et que cette coupure assez brutale avec le reste de la famille, ça devait être comme le petit quelque chose qui devait continuer à les lier à la Pologne. Ma mère a grandi en fait à Versailles, donc elle se retrouve dans un lycée de Versailles, lycée La Bruyère, où elle est la petite polonaise, mais elle ne se sent pas du tout être la petite polonaise, elle est française. Et j'ai toujours entendu dire ma mère me dire, mais est-ce que tu te rends compte ce que devaient penser les professeurs de moi, mes petites copines, avec ce prénom? Et elle n'a jamais compris pourquoi on lui a donné ce prénom-là. Alors, je pense que ma mère doit avoir une 30aine d'années, en fait, quand la bascule se fait, puisque, en fait, ça a commencé dans son travail. Ma mère était lectrice-correctrice dans l'édition. Et, en fait, elle a demandé dans son travail à ce qu'on l'appelle par ce prénom, Marie-Wanda. Et, en fait, à un moment donné, elle a fait disparaître le Wanda pour ne plus garder que Marie. Ma mère, quand j'étais plus jeune, avait mis du blanc, du Tipex sur le livret de famille, en fait, sur son prénom, pour pouvoir officialiser ça à sa façon, en fait. Et puis, avait dû réécrire dessus, je me souviens plus bien, mais ce dont moi je me souviens, je dois avoir sans doute une dizaine d'années, parce que je suis encore vraiment petite, mais suffisamment grande pour comprendre que mon livret de famille a été bidouillé, et donc je me souviens avoir caché ce livret de famille pour qu'on ne puisse plus l'utiliser, parce que j'étais affreusement gênée. Moi, je n'ai jamais montré mon livret de famille. Et donc, quand il a été possible, parce que la démarche était simplifiée, d'officialiser ce changement de prénom, la loi a changé il y a peu de temps, en fait, et donc elle a rempli ce formulaire avec beaucoup de simplicité, c'est-à-dire elle a dit qu'elle souhaitait franciser son nom et qu'elle l'avait fait d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Elle a demandé à une de ses amies de témoigner du fait qu'on l'appelait Marie. Elle est allée déposer son dossier en mairie et malheureusement, quelques mois après, on a reçu la réponse de l'état civil qui disait on ne peut pas répondre favorablement à votre demande parce qu'on n'y voit pas un intérêt légitime. C'est l'expression qui était utilisée. Et donc, quand ma mère a reçu la réponse de la mairie, elle s'est rendue à la mairie pour avoir une explication. Et là, elle a entendu quelque chose qui l'a vraiment mise en colère parce que on lui a dit, écoutez, madame, votre prénom n'est pas d'origine maghrébine. Donc, en gros, c'est quand même plus facile pour vous de vous appeler comme vous vous appelez que de vous appeler Mohamed. Donc, on est passé en deuxième instance devant le procureur de la République et qui nous a fait part lui aussi par courrier quelques mois plus tard de sa décision, confirmant celle de l'état civil, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas d'intérêt légitime à cette demande. Alors ma mère a 70 ans, donc ça me fait à la fois de la peine pour elle parce que c'est dire quand même qu'elle avait envie de le faire, parce que justement le faire à 70 ans, c'était je pense chez elle le souhait qu'une bonne fois pour toutes sa pièce d'identité soit en adéquation avec l'usage de tous les jours de son prénom. Donc maintenant, est-ce qu'on va saisir un avocat? Est-ce qu'on va, je sais même pas s'il s'agit de faire appel ou... Mais on aimerait aller au bout de cette démarche. Alors j'ai toujours connu ma mère effectivement s'appelant Marie, mais j'ai aussi toujours su qu'elle s'appelait Vanda parce que nous avons été en fait trois à ne jamais pouvoir l'appeler Marie, ses parents et moi en fait j'ai jamais pu non plus l'appeler Marie. Ce prénom Marie, pour moi je sais pas comment vous dire ça, ce prénom ne lui va pas. Et donc, je l'ai toujours appelée Vanda, ce qui donnait lieu à pas mal de fous rires parce que j'insistais même souvent lourdement sur ce prénom. Et parfois, je m'amusais à ne pas l'appeler maman, mais à l'appeler Vanda. Et donc, moi, je pense que j'appellerai ma mère jusqu'à la fin de sa vie Vanda parce que pour moi, c'est son prénom. Et c'est pour moi, à mes yeux, un magnifique prénom. Et moi, j'ai un prénom on ne peut plus français, mais qui du coup n'évoque strictement rien de mes origines. Et moi, j'avoue que j'aurais beaucoup aimé ça. Mais ma mère est amusante d'ailleurs, parce qu'elle me dit « mais tu n'as qu'à changer ». Et elle me dit d'ailleurs « ton prénom est moche ». Enfin, ma mère est assez directe parfois dans sa façon de s'exprimer. Mais donc, voilà, elle me dit « ton prénom n'a strictement, il est vrai, aucun intérêt. Aujourd'hui, je te rebaptiserai pas du tout Anne-Sophie. Donc après tout, change ». Et donc, c'est vrai que je dis souvent à ma mère, puisqu'elle a abandonné son prénom polonais. Elle a abandonné Vanda. Je lui dis souvent que si j'ai une fille, j'aimerais qu'elle porte ce prénom. Alors, je ne sais pas si j'aurai la chance d'avoir une fille, mais ça fait bondir ma mère qui me dit « mais quelle idée tu as de lui donner un prénom aussi marqué. Appelle tes enfants avec un prénom français. Beauvais, c'est quand même très facile. Pourquoi tu veux compliquer les choses? La Pologne, elle est là, elle est dans nos mémoires, elle est dans notre cœur. Elle n'a pas besoin d'être dans les prénoms. »
Avant, je m'appelais Mozart, avec grand respect. Maintenant, avec grande fierté, je suis devenu Raphaël Chantoiseau, mon nom de mariage. Je suis né à Téhéran, je suis grandi à Téhéran, je suis iranien totalement. Mais j'étais toujours intéressé de m'approcher de la culture européenne. Et après toutes les histoires qui arrivaient en Iran, de période Ahmadinejad, après toutes les manifestations, je me sentais pas du tout bien chez moi là-bas. Je me sentais comme un étranger. Voilà, quand je suis arrivé ici, tout de suite je tombais amoureux de Paris, j'ai rencontré des gens, c'était très agréable, mais je savais que je voulais pas retourner en Iran. 25 février 2012, on se rencontrait avec Jean-Baptiste Chantoiseau. Tout de suite, j'ai compris que c'est lui, la raison d'arriver en France. C'était un grand coup de foudre pour lui aussi. Depuis, on est ensemble, il y a presque 6 ans et demi. Quand je rencontrais Jean-Baptiste, autant qu'il est totalement français, garçon, il a doctorat de la Sorbonne, il est cultivé, grande famille de Normandie. Quand je suis arrivé chez lui, vous voyez, beaucoup de livres, je voulais capter cet style. Je voulais le ressembler. Maintenant, j'essaye de parler comme lui, bien présenté. Imaginez-vous, quand on se rencontrait, on parlait en anglais. Moi, la première fois qu'il m'avait invité chez ses parents, je ne pouvais pas parler anglais, je me suis forcé. Première fois, c'était un peu difficile, mais après, j'étais très content. Je voudrais me bien présenter pour avoir m'accepté à côté de leur fils. À chaque fois que je suis allé, il y a une dame... La grand-mère de Jean-Baptiste, c'est une merveille. Elle disait, oui, maintenant on comprend ce qu'il dit. Hein, petit, il fait progrès. Quand je suis arrivé ici, je n'imaginais pas qu'il y a autant de musulmans, autant de femmes voilées. J'étais très, très surpris. Mais OK, après les attentats qui arrivent, j'avais très mal vécu cette période-là parce que les points de vue vers Moyen-Orient, ça a changé. À cause de cette idée extrémiste, islamiste, politique et stupide qui existe partout maintenant, je ne voulais pas que les gens me jugent avec quelque chose qui idées extrémistes islamistes. Voilà. Je voulais que ça change les sentiments des autres. Le moment que j'ai décidé de changer mon prénom, quand j'ai su qu'il y en a une possibilité, il y a un formulaire, j'ai préparé une liste pour changement. Mais Raphaël, c'était un prénom qui, quand j'étais en Iran, c'était le peintre Raphaël. Un peu. Après, Raphaël Razzaghi, ça sent un peu italien, parce que je voudrais jouer sur ça. On était allé voir les parents de Jean-Baptiste. Tout de suite, on a dit Raphaël. Sa mère dit, oui, Raphaël. Il dit pourquoi ? Il dit, en fait, je voulais donner Raphaël à Jean-Baptiste. C'était un prénom préféré de sa maman. Jean-Baptiste, il est un garçon unique. C'était son choix pour donner le prénom Raphaël, mais finalement, le grand-père maternel s'appelait Jean-Baptiste. Pour respect, finalement, Raphaël restait toujours à côté. Elle n'a jamais eu deuxième enfance, mais symboliquement, je suis son deuxième enfance parce qu'on m'a bien accueilli, m'a bien accepté. Voilà, tout de suite, on a tout laissé à côté les autres prénoms. Je commençais Raphaël. Après, j'étais très content. Je pensais la première fois que j'ai déposé mon dossier, premier interview, pourquoi je voulais changer. Parce que Maziar, c'est mon passé. Quand quelqu'un m'appelle Maziar, je me souviens plus les côtés négatifs de ma vie en Iran. Mais quelqu'un qui m'appelle Raphaël, ça veut dire ma nouvelle vie, ma vie avec Jean-Baptiste, mon mariage, réussite, victoire. Je sais qui je suis maintenant. Je sais qu'est-ce que je veux. Quand je me présente Raphaël, c'est grande fierté derrière ce prénom. J'ai eu beaucoup de critiques depuis que j'ai changé mon prénom, mais je défends le changement. Je suis en France, je ne suis pas là rencontrer Mohamed, Abdullah ou quelqu'un d'autre. Je pensais que la seule personne qui a le droit de critiquer, c'est ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a donné le prénom Maziar. Si je vais annoncer que j'ai choisi Raphaël, peut-être elle serait gênée, mais pas du tout. Elle a tout de suite accepté. Elle a même fêté ma nationalité française parmi ses copines en Iran. Dernier voyage qu'on était tous ensemble, elle essayait de se souvenir qu'elle doit m'appeler Raphaël. C'était très amusant le moment que ma mère m'appelle Raphaël. C'est une vraie renaissance.
Notre prénom, c'était un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Bouchra, Antoine Patinet, à Anne-Sophie, à Daniel et à Radia. Jeanne Delecroix, c'est attachée de production des Pieds sur Terre. Et Camille Richir, c'est notre stagiaire.